Et toute la Bible proclame cette importance du temps, puisqu'il a fallu des siècles pour la préparation de la venue du Christ sur la terre. Et les Juifs ne comprennent pas immédiatement ce que Dieu leur dit. Et nous-mêmes, nous ne comprenons pas tout de suite toutes les merveilles qui se trouvent dans l'Évangile. La pensée chrétienne est très sensible à cette idée que Dieu fait les choses à travers le temps. Et maintenant que nous avons découvert l'évolution des espèces végétales et animales, nous le comprenons encore mieux. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Seulement, contrairement à ce que dit Hugo Frey, Dieu ne s'énerve jamais dans son atelier. Bon, donc il y a là toute une mystique de l'instant présent importante. Et nous devons pareillement combattre l'impression si fréquente de vivre des temps morts, inintéressants, inefficaces, alors que nous pouvons profiter d'une attente à un feu rouge, à un guichet ou à notre téléphone pour nous replonger en Dieu et nous laisser envahir par son esprit. Vous avez des gens qui sont toujours énervés parce qu'ils ont l'impression de perdre du temps. Il faut profiter de ces temps morts et les transformer en temps forts. Chaque fois que je suis obligé de m'arrêter, parce que le monde m'arrête, parce que les autres sont là, je peux en profiter pour me replonger un peu plus au centre de mon cœur pour y retrouver Dieu. C'était la grosse technique enseignée par ce petit frère cuisinier du XVIIe siècle, frère Laurent de la Résurrection, un carme que toute l'aristocratie de Paris venait consulter sur la façon de faire oraison. Et il ne cessait de redonner le même conseil aux uns et aux autres. Au milieu de vos prières vocales, au milieu de votre travail, plongez à l'intérieur de vous-même pour y retrouver Dieu. C'est ce que propose aussi le père Caffarel dans son école de prière à Troussure. Il a transformé une prière hindoue en prière chrétienne. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi me perdre en toi dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre ta joie tout au fond de mon cœur. Nous pouvons sans cesse retrouver la très sainte Trinité, cet océan de joie qui habite notre cœur, et participer un peu à sa joie. La volonté du Père, c'est que nous vivions déjà quelque chose de la joie du ciel sur la terre. C'était l'une des grandes idées de Thérèse. Au ciel, je verrai le bon Dieu, c'est vrai, mais pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. Tous les saints ont expérimenté la parole de Jésus que la vie éternelle, elle est commencée ici-bas. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jésus n'emploie pas un futur. Il possède déjà la vie éternelle puisqu'il possède la vie de Dieu et qu'il peut vivre avec Dieu et en Dieu. Notre charité fraternelle serait également plus délicate si nous étions davantage attentifs à la personne qui est là devant nous au lieu d'avoir la nostalgie de la personne que nous rencontrions il y a un quart d'heure. Un médecin me confiait que lorsqu'il allait chercher un nouveau client dans la salle d'attente, il faisait cette prière. Seigneur, aide-moi à être tout disponible à la personne qui arrive, au lieu d'avoir la nostalgie de la personne précédente, dont le cas me paraissait beaucoup plus intéressant. Cette mystique de l'instant présent peut être vécue de façon héroïque lorsque l'instant présent est particulièrement difficile. Si nous regardons de près la vie des saints, nous nous apercevons qu'ils ont vécu avec une confiance héroïque cette mystique. Malgré tous ces soucis pédagogiques et financiers, Don Bosco avait placé sur sa table de travail le célèbre passage où saint Paul nous exhorte à la vivre. « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur, je le répète, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Alors la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus. Vous avez le droit de demander toutes sortes de choses à Dieu, mais il faut toujours qu'il y ait une petite pincée d'action de grâce qui accompagne la prière de supplication, car ce que Dieu vous a déjà donné est infiniment plus important que ce que vous lui demandez. Le psaume préféré de Thérèse était « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait manquer où il me conduit. » Persuadée que rien ne pouvait la séparer de l'amour de Dieu, elle redisait souvent « Tout est grâce ». Dans l'un de ses premiers poèmes, composé le 1er juin 1894, elle exprime ce désir de vivre un jour à la fois, rien que pour aujourd'hui. « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain ou non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. » Et cette mystique de l'instant présent, Thérèse l'a vécu d'une façon héroïque dans les derniers mois de sa vie. Au lieu de se tourmenter à l'idée que ses souffrances allaient sans doute se prolonger, elle souffre minute par minute. De moment en moment, on peut beaucoup supporter, confie-t-elle à Mère Agnès. « Je ne souffre qu'un instant à la fois, dit-elle encore. C'est parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on s'est du courage et qu'on désespère. » Et elle répète à Mère Agnès qu'elle n'est pas du tout de trempe à souffrir beaucoup. « Pour la souffrance du corps, je suis comme un petit enfant, tout petit. Je suis sans pensée, je souffre de minute en minute. » Réflexions qui font penser à la réponse que fit un jour un garçon que le curé d'Ars allait visiter dans son hôpital. « Tu souffres beaucoup, mon pauvre petit. » « Oh non, monsieur le curé, je ne sens plus aujourd'hui le mal d'hier, et demain je ne sentirai plus ma douleur d'aujourd'hui. » Et saint Jean-Marie Vianney, qui aimait beaucoup les mots d'enfant, répétait souvent celui-ci à ses paroissiens, pour les encourager à ne pas s'inquiéter du lendemain. Les saints sont en effet convaincus que Dieu leur donnera au fur et à mesure les grâces de courage dont ils auront besoin dans leurs épreuves. Si la souffrance augmente, Dieu donnera sa grâce en proportion. « Le bon Dieu me donne du courage en proportion de mes souffrances », disait Thérèse le 15 août 1897, 6 semaines avant sa mort. Au début de sa grande quinzaine de souffrances, la seconde quinzaine du mois d'août. Je sens que pour le moment, je ne pourrais en supporter davantage, mais je n'ai pas peur, puisque si elles augmentent, il augmentera mon courage en même temps. C'est elle qui disait un jour, également sur son lit d'infirmerie, « Mais je n'ai pas encore eu une minute de patience, ce n'est pas ma patience à moi, on se trompe toujours. » Et 8 jours après le 15 août, après avoir avoué à Mère Agnès qu'elle n'avait jamais passé une aussi mauvaise nuit, elle ajoute « Oh, qu'il faut que le bon Dieu soit bon pour que je puisse supporter tout ce que je souffre. Jamais je n'aurais cru pouvoir souffrir autant. Et pourtant, je crois que je ne suis pas au bout de mes peines, mais il ne m'abandonnera pas. » Vous savez qu'elle avait découvert dans un livre de sciences naturelles le mot de Job « Quand bien même Dieu me tuerait, j'espérerai encore. » C'est avec cette conviction que le 30 septembre, elle vivra son agonie. « C'est donc atroce ce que vous souffrez ?» lui demande sa prieure, Mère Marie de Gonzague. « Non, ma mère, pas atroce, mais beaucoup, beaucoup, juste ce que je peux supporter. » C'est pourquoi d'ailleurs elle n'était nullement tentée de s'admirer elle-même. Quand elle surprenait les autres à admirer son courage, sa patience n'était pas la sienne, un autre souffrait en elle. Il est temps de voir maintenant le deuxième aspect de l'Évangile. Si nous devons vivre un instant à la fois, minute après minute, nous devons préparer l'avenir. Dieu nous aime plus que les moineaux du ciel, mais il ne nous a pas donné une jugeote pour que nous gardions toute notre vie une tête de linotte. L'imprévoyance n'est pas une béatitude biblique. La Bible exalte plus d'une fois la prudence de celui ou de celle qui sait organiser les affaires de sa maison en voyant plus loin que le bout de son nez. Dans le livre des Proverbes, vous avez tout un éloge de la maîtresse de maison qui prévoit tout ce qu'elle doit faire pour que sa maisonnée soit en ordre. L'abandon à la providence ne signifie absolument pas l'abandon de tout projet, de toute prospective. Et plus nous acceptons de responsabilité, plus nous avons à faire des projets à long terme. Le ministre des Finances doit faire plus de projets que la ménagère. Il doit faire du long terme. Vous avez même un tas de métiers qui consistent à prévoir l'avenir. Vous avez des gens qui sont payés pour cela, à prévoir l'avenir d'une entreprise. Donc Dieu ne nous demande pas seulement de développer notre patience et notre confiance, mais de nous servir de notre imagination créatrice et même de la développer afin de trouver une solution aux problèmes nouveaux qui se posent à nous et à nos frères. Suivant le conseil attribué à Ignace de Loyola, nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu, mais agir comme si tout dépendait de nous. En fait, saint Ignace a dit en quelque sorte le contraire. Lorsque nous prions, nous devons penser que tout dépend également de nous, et lorsque nous agissons, nous devons penser que finalement, c'est le Seigneur qui construit la maison et que tout dépend de lui. Mais on cite habituellement saint Ignace dans l'autre sens, parce que c'est plus facile à comprendre. Hein, prier comme si tout dépendait de Dieu, et préparer un sermon, préparer une homélie, préparer notre travail comme si tout dépendait de nous. Nous devons donc imaginer notre action comme si tout dépendait de la puissance créatrice de notre imagination et de la ténacité de notre volonté. C'est évident qu'un chercheur scientifique ne va pas attendre que ça lui tombe du ciel. Il va se creuser les méninges, il va imaginer des expériences, il va faire preuve d'imagination pour faire progresser la science. Et même les artistes, combien de musiciens ont dit que dans leur œuvre, il y avait 5% d'inspiration et 95% de transpiration.